Un air d'actu avec Serge Carrel.
Il a publié plus d'une vingtaine de livres, il est ingénieur et sociologue. Frédéric de Coninck pose un regard original sur notre société à partir de sa vision chrétienne du monde. Dans un contexte de guerre en Ukraine, il évoque notre monde en panne d'espérance. Madame, monsieur, bienvenue. Frédéric de Coninck, bienvenue.
Bienvenue, bonjour. Oui.
Alors, vous êtes ingénieur, sociologue aussi, vous avez enseigné à l'Université de Paris-Est. Aujourd'hui, vous publiez des éditoriaux sur un blog intitulé « Tendance, espérance » et qui sont repris par le site français Regards Protestants. Vous venez aussi de publier un article intitulé « Ukraine, c'est parti pour durer ». En deux mots, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
En fait, je pense qu'au début de la guerre, on en a rendu compte avec les temporalités, disons, je dirais, journalistiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire comme si ça allait être un événement de courte durée, enfin comme si c'était les Jeux Olympiques. De toute façon, à la base, les guerres, malheureusement, ça dure. Et puis là, on voit bien que c'est quelque chose qui est installé dans la durée et que même si les armées russes ont rencontré plus de résistance qu'elles le pensaient, elles ne vont pas s'arrêter, elles vont continuer. Et donc, on est parti pour certainement un conflit qui va s'installer, en tout cas sur le long terme. Oui.
Alors, dans cet éditorial « Ukraine, c'est parti pour durer », vous faites allusion à un livre que vous avez lu, le livre d'une écrivaine biélorusse, Svetlana Alexievitch, « La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement ». Pour vous, Vladimir Poutine, c'est vraiment un nostalgique de la grandeur perdue de l'Union des républiques socialistes soviétiques ?
Oui, et puis il n'est pas le seul. Hein. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas, je pense, depuis la France, le soutien dont il bénéficie au niveau des Russes. Ce qui ressort de ce livre, c'est qu'en fait, pour beaucoup de Russes, ce qui pour nous a été la chute du mur de Berlin et puis l'autonomisation de toute une sorte de pays qui auparavant était satellisé par l'URSS, pour nous c'est vraiment un événement d'émancipation, mais pour ce qui ressort de ce livre, ce que raconte Svetlana Alexievitch, c'est qu'en fait, pour beaucoup c'était une perte, c'était une sorte d'humiliation, une perte de la grandeur russe. Alors ça allie au contexte que pour beaucoup de gens finalement, la perestroïka et l'épisode de Gorbatchev n'étaient pas tellement positifs. À ce moment-là, l'économie s'est effondrée, les inégalités ont explosé, des tas de gens ont perdu leur logement. Donc, ils ne gardent pas un souvenir de l'époque démocratique tellement extraordinaire. Donc, tout ce qui leur reste, c'est d'essayer de s'accrocher à un rêve de grandeur. Alors, le livre, c'est des entretiens réécrits. Hein. C'est une œuvre en partie romancée, mais elle rend bien compte de quelque chose qu'on a du mal à percevoir en Occident.
Est-ce que vous diriez à certains égards que finalement Vladimir Poutine est dans la même logique que Donald Trump ? Il veut faire de son pays Russia Great Again, la Russie à nouveau grande, à nouveau prestigieuse ?
Ouais, tout à fait. C'est même plutôt Trump qui a copié sur lui, quoi, si je puis dire. Parce qu'en fait, effectivement, non, mais on voit qu'il y a clairement depuis quelques années, on pourrait dire la même chose pour la Chine, hein. Il y a vraiment un retour des rêves hégémoniques. Alors, plus du tout pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons purement politiques. Enfin, il y a des tas de nations qui, aujourd'hui, voudraient avoir plus de pouvoir. Et du pouvoir pour le pouvoir. Je crois que c'est quelque chose de brutal, quoi.
Et là, finalement, dans un livre que vous avez publié en 2019, hein, « Être celle de la Terre dans un monde en mutation, appel aux chrétiens du 21e siècle », vous relevez que finalement, il y a toutes sortes d'espérances qui ont cours aujourd'hui dans notre monde et cette espérance politique qu'on trait parmi celles-ci, mais que finalement, dans le même temps, on est dans un monde qui est en panne un peu du point de vue de l'espérance. Et vous invitez finalement peut-être à voir ce qui se passe en Russie aussi comme le signe d'une panne d'espérance qui, quelque part, est regagnée au travers d'une hégémonie politique à laquelle on aspire.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle la croyance en le progrès, qui était quand même assez générale au XXe siècle.
Bon, il existe encore beaucoup aujourd'hui chez certains qui, finalement, parlent du progrès comme étant un peu le sens de l'histoire.
Voilà, mais oui, ça existe toujours chez certains, mais c'est quelque chose qui est de moins en moins entendu. Je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui espèrent vraiment qu'on va vers quelque chose de mieux. Bon, il y a toute la menace écologique qui montre que cette croyance au progrès, elle s'appuyait sur des progrès matériels, notamment des progrès techniques et matériels. Aujourd'hui, on voit bien que la croissance matérielle, elle pose des tas de problèmes et que les innovations techniques, elles ont du bon en partie, mais elles posent aussi beaucoup de problèmes. Donc, en fait, cette naïveté par rapport à l'innovation scientifique et technique, elle a disparu. Et donc, en fait, je pense que beaucoup de gens sont attachés à leur situation matérielle, mais ils n'espèrent pas vraiment que leur sort va s'améliorer. Pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ils sont dans des situations de ce qu'on appelle de descente sociale, c'est-à-dire qu'ils voient plutôt leur situation menacée. Et puis, donc, en fait, de ce point de vue-là, ils n'attendent pas grand-chose d'une sorte d'évolution spontanée de la société et de l'économie. Et donc, une fois qu'on n'a plus cet espoir-là, qu'est-ce qui reste ?
Qu'est-ce qui reste ? Et finalement, l'idéologie politique apparaît comme une sorte de remplacement, de succès d'année à cette panne d'espérance ?
Oui, c'est tout à fait évident. Alors, c'est vrai que pour nous, ça fait bizarre. Pour des gens qui auraient vécu ne serait-ce qu'au 18e, c'était à peu près le monde qu'ils connaissaient. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'époque où les nations européennes se dressaient les unes contre les autres, chacune essayant d'augmenter son pouvoir. Alors, il y a eu aussi, d'ailleurs, à une époque, à partir du 18e, des conquêtes coloniales, où, en fait, comme ça, une fois que les pays ont eu un certain pouvoir, ils essayaient de continuer à augmenter leur présence et leur pouvoir ailleurs. Alors, et c'était pas seulement pour des raisons économiques, ça paraît, évidemment, quand on dit comme ça, un peu absurde, mais juste pour le plaisir d'être le plus grand. Enfin, c'est un peu comme, je sais pas, une manière pacifique de parler de ça, c'est quand on gagne la Coupe du Monde, on est content, quoi.
Mais on est les champions.
On est les champions, voilà, c'est ça. Et puis bon, on est content, voilà.
Et finalement, par rapport à une analyse politique aujourd'hui, cette espérance, entre guillemets, politique, on la retrouve dans pas mal de pays. On pourrait finalement lire ça dans le cadre de ce qui s'est passé avec le Brexit, en se disant que finalement, le Royaume-Uni était enfermé en Europe et qu'il a souhaité, en quittant l'Union européenne, il a souhaité quelque part retrouver une sorte de gloire perdue. Vous diriez ça ?
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que le Royaume-Uni ne s'est jamais remis de la perte de son empire colonial. Et d'ailleurs, à un degré moindre, mais à la France, c'est la même chose. Je veux dire, les votes aujourd'hui nostalgiques qu'on voit, enfin, parce qu'il y a la campagne présidentielle aujourd'hui, il y a un candidat, clairement, qui fait de la nostalgie sur fond de commerce, c'est la même idée, quoi. C'est au fond, voilà, on n'a plus la gloire qu'on a été. Alors, effectivement, parce que clairement, économiquement, au niveau du Brexit, en tout cas pour l'instant, ils sont perdants, mais c'est pas forcément mal vu. Au moins, on est souverain, quoi.
Dans votre livre « Être celle de la Terre dans un monde en mutation », vous faites une sorte de déconstruction, hein, de déstabilisation de toutes ces espérances qui marquent notre réalité aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de cette déconstruction de l'espérance dans le progrès, mais vous travaillez aussi au niveau des textes bibliques et voilà, de ce qui se passait au 1er siècle entre les différents textes apocalyptiques, hein, on dit, qui envisageaient le futur. Et vous montrer la spécificité chrétienne dans un tel contexte. Alors, quelle était-elle ?
Oui, alors, en fait, l'apocalyptique chrétienne, elle est en partie l'héritage de l'apocalyptique juive, en partie. C'est-à-dire que, justement, dans l'apocalyptique juive, il y avait l'espoir que le royaume d'Israël, enfin, ça aurait pu être un autre royaume, en l'occurrence, puisque c'était des Juifs et le royaume d'Israël, allait retrouver sa grandeur.
Donc, on retrouve cette dynamique politique, une aspiration, voilà, finalement, ouais, à être great again, grand
great
à nouveau.
Again, voilà. Alors qu'en fait, dans les apocalypses chrétiennes, puisqu'il y a eu, il y a des petits bouts dans les évangiles aussi, non, c'est pas ça, il s'agit plutôt d'essayer d'arriver à une autre manière de vivre ensemble, à une autre manière de construire une fraternité de tous les peuples. Ça sort bien dans l'Apocalypse de Jean, par exemple. J'ai vu tout d'un coup une foule de toutes nations, peuples et tribus qui étaient rassemblées devant le trône de l'agneau. Donc, il y a bien l'idée qu'on va construire quelque chose, mais qui, justement, déborde les frontières des nations et qui concerne la manière dont on vit les uns avec les autres, et donc, dont on vit devant Dieu. Mais dans les évangiles, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont très, très, obéissent au même ressort. ou bien on s'intéresse à Dieu comme quelqu'un de vraiment autre, quelque chose à nous dire, ou bien on pense que Dieu, il est là pour nous aider justement à gagner plus de puissance, plus de richesse, mais ça existe encore aujourd'hui, quoi.
Je veux dire, alors qu'en fait, y compris dans les milieux chrétiens.
Oui, oui, tout à fait, y compris dans les milieux chrétiens. Dieu va nous couvrir de bénédictions puisqu'on est croyant. Oui, on peut très bien avoir une forme de commercialisation de Dieu, quoi. On en attendait bien. Mais non, dans l'Apocalypse, c'est qu'on avance tous ensemble avec la création d'un peuple qui a une autre manière de vivre ensemble. Et c'est ça, l'espérance, elle est celle-là. Et
finalement, vous invitez à être critique et à déconstruire toutes ces espérances politiques dans le progrès ou économique, et quelque part à se focaliser sur une attente qui n'est pas matérielle, mais qui est une attente de Dieu en nous découvrant les uns et les autres, frères et sœurs.
Mais c'est-à-dire que moi, je suis frappé de voir aujourd'hui que la question de penser que ce qu'on peut vivre avec les autres a une richesse et une valeur, enfin en soi, à quel point est clivante. Moi, j'avais enquêté auprès de toute une série de groupes qui travaillaient pour la transition écologique. Et en fait, dans tous ces groupes, ce qui m'avait frappé, c'est que c'était pas seulement le rapport à la nature qui était en jeu, c'était aussi le rapport des personnes les unes avec les autres. C'est qu'en fait, ils disaient que ces choses-là, vivre par exemple la transition écologique, enfin c'est un exemple, hein, ça n'est possible que si on le fait ensemble. C'est que si on trouve suffisamment de valeur à ce qu'on peut vivre ensemble, aux, ben, les liens qu'on a avec les autres, si on pense que ça a de la valeur, alors on arrive à changer de pratique. Mais si on reste dans une situation individualiste où il y a moi et mes biens, eh bien, en fait, on est complètement coincé. On n'arrive pas du tout à évoluer.
Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire par là? C'est que finalement, il y a dans le cadre de certains groupes en lien avec la transition écologique, un peu comme dans la foi chrétienne, l'importance de mettre les relations équilibrées, des relations aimantes entre les gens au premier chef. Et puis finalement, ça permet de casser ces espérances ou ces pseudo-espérances qui seraient de l'ordre politique ou du progrès.
Oui, c'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, par exemple, pour répondre à votre question, c'est que au début des évangiles, il y a les tentations de Jésus, et les deux premières tentations, elles ont partie liée. La première tentation, c'est le diable dit à Jésus, ben, change ces pierres en pain. Donc, tu peux ordonner sur la matière, hein, tu peux changer ces pierres en pain. Il y a un rapport homme-chose. Et la deuxième, c'est, je te donnerai le pouvoir sur tous les peuples de la terre si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. C'est le pouvoir sur les personnes. Ça me frappe de voir que souvent, le rapport que les gens développent avec la nature, avec la création, il est du même ordre que celui qu'ils développent avec les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un rapport autoritaire avec les personnes, on aura aussi un rapport autoritaire sur la nature. Et si on a un rapport respectueux de la nature et qu'on se rend compte qu'on peut pas faire tout avec la nature, eh bien, on aura aussi un rapport respectueux avec les autres. Et du coup, et là, on voit bien que c'est autre chose. Qu'est-ce que je peux faire avec l'autre si il n'est pas ma chose? Si je ne suis pas là pour le manipuler, en faire ce que je veux, ben, à ce moment-là, je suis bien censé l'écouter. Et puis, essayer de faire quelque chose avec lui et qu'on fasse quelque chose ensemble. Et là, on rentre dans autre chose. On rentre dans autre chose qui, on se rend compte que ça a une valeur en soi, quoi. C'est pas bénéfice matériel, c'est la relation en elle-même qui est intéressante, qui a de la valeur.
Ce qui m'a aussi frappé là en lisant votre livre, c'est que vous reprochez à pas mal de ces espérances de nier une réalité fondamentale pour la foi chrétienne, c'est la réalité du péché. La réalité du mal qui, quelque part, quoi qu'on fasse, est toujours là, attaché à nos baskets.
Oui, alors là, on revient d'ailleurs aussi peut-être au sujet de la guerre en Ukraine, c'est que en fait, il y a quand même une vision tragique de l'histoire dans le Nouveau Testament. Enfin, il y a une forme de résistance, effectivement, de l'humanité à l'appel de Dieu, à aimer Dieu et puis à aimer son prochain comme soi-même. Il y a une forme de résistance persistante. Et donc, c'est ce que raconte l'Apocalypse de Jean. En fait, l'histoire ne progresse pas, hein, d'événement heureux en événement heureux, elle progresse de crise en crise. Et puis, on est face à l'histoire. Et en fait, il y a quelque chose de tragique. Hein. On n'est pas dans un monde rationnel où on peut venir à bout des passions par la raison, ce qui est le rêve du rationalisme. On est dans un monde tragique où le péché, la domination de l'homme sur l'homme, l'agression, sont des réalités persistantes face auxquelles on ne peut pas agir directement, on ne peut agir que indirectement en développant d'autres logiques d'action. C'est-à-dire, bien sûr, aujourd'hui, je veux dire, c'est pas pour dire que il y a politiquement, on essaye de trouver, bien sûr, des issues à cette guerre en Ukraine, et puis donc, il y a des armes qui circulent, etc. Bon, ça, c'est, je dirais, ça, je dirais, les nations, c'est leur travail, enfin, elles font ce qu'elles peuvent. On voit bien que du côté des nations, sous la bannière de l'OTAN, il y a, si possible, l'idée de ne pas mettre le doigt dans l'escalade, et ça, c'est bien, c'est tout à fait honorable. Pour les chrétiens, il y a autre chose, je veux dire, ça, c'est ce que font les États. Pour les chrétiens, je pense qu'il y a vraiment une importance considérable à ne pas céder à ce tragique de l'histoire, mais justement à vivre dans l'histoire d'une autre manière. C'est ça l'histoire qui est racontée dans l'Apocalypse, c'est que certes, le mal, on n'en vient jamais à bout d'un seul coup. Dans l'Apocalypse, il y a une sorte de ressassement.
On revient régulièrement sur une nécessité du combat.
C'est ça, voilà. Il y a des situations cycliques qui reviennent sans cesse. Bon, l'histoire avance un peu, mais elle avance à coup de ressassement, quoi. C'est ça que je veux dire. En fait, on voit pas tout à fait. Les choses avancent. Enfin, ça, c'est la manière dont l'Apocalypse est construite. Les choses avancent, mais au prix de toujours de souffrance. Parce que la question, au fond, c'est est-ce qu'on pourrait installer un royaume d'amour par la force? Bon, on voit bien que c'est contradictoire dans les termes. Et c'est là que,
Finalement, la foi chrétienne vient quelque part déconstruire un peu toutes ces espérances pour montrer que dans la réalité de ce monde, l'espérance, elle est peut-être toujours au-delà.
Oui, alors en fait, Dieu intervient dans l'histoire, mais il est au-delà dans deux sens. Il est au-delà, bon, au sens où on l'entend d'habitude. Il est aussi au-delà parce qu'il agit d'une manière qui est au-delà de ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'agit pas du tout. Enfin, au fond, on l'imagine volontiers justement comme une sorte de super Poutine qui écrabouillerait les opposants.
Les méchants.
Les méchants, en l'occurrence. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il agit, justement. Et c'est ça qui est déroutant. Et c'est pour ça que son action, elle n'est pas toujours, comme on dit quelquefois, elle ne vient pas de manière à frapper les regards, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand son action, on la discerne pas forcément. C'est-à-dire, si on ne veut pas la voir, on la voit pas. Et donc, on préfère, ça paraît toujours mieux d'avoir une solution à court terme où on se dit, bon, ben voilà, on va écrabouiller tous ceux qui nous gênent. Mais c'est pas, dans certains cas, je veux dire, même dans un État, on utilise des forces de police, etc. Et c'est un moindre mal. On est obligé de faire ça. C'est pas ça le dernier mot de l'histoire.
En commun, ce don reçu du ciel, en parfum, un peu de cet amour, en soi, mais ensemble, ce livre ouvert en nous, par sa main, à vivre à travers tout, en chemin. De cet amour en soi, tous ensemble.
Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui Frédéric de Coninck, ingénieur et sociologue, auteur du livre « Être sel de la terre dans un monde en mutation, appel aux chrétiens du XXIe siècle ». Alors, Frédéric de Coninck, dans notre contexte de guerre en Ukraine, de ce que certains appellent le début de la Troisième Guerre mondiale, finalement, que peut-on espérer en tant que chrétien?
Quand on est dans le monde, on y est. On a pas, enfin, en termes d'espérance, je dirais, séculière, on est solidaire des autres. On est solidaire des pays où on vit. Et puis, il n'y a pas de raison de penser qu'on va échapper aux conséquences de la guerre juste parce qu'on est chrétien. La question, c'est plutôt en quoi est-ce qu'on peut essayer de faire entendre quelque chose de différent?
Alors, à votre avis, aujourd'hui, vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez faire entendre de différent?
Je ne sais pas, je trouve, quand il y a un conflit, on me dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, moi, je pense que dans un conflit, malheureusement, une fois que le conflit est déclenché, c'est très difficile d'intervenir. Mais par contre, on sous-estime toujours ce qu'on pourrait faire avant. Et ce qu'on peut faire aussi après. Bon, après, on le fait un peu plus. C'est-à-dire, en fait, il y a de la reconstruction. Quelquefois, on essaye aussi, aujourd'hui, quand il y a eu des guerres, de voir comment est-ce qu'on peut reconstruire des relations sociales entre des groupes sociaux qui se sont affrontés avec des armes. Ça se fait. Mais aussi, il y a beaucoup de choses où on pourrait réfléchir avant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens devraient réfléchir avant, parce que la Troisième Guerre mondiale, elle ne viendra peut-être pas... Bon, j'espère qu'elle ne viendra pas, là, de...
De ce conflit en Ukraine.
Oui, mais par contre, il y a une guerre qui est devant nous, qui va être la guerre liée au changement climatique. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on est d'une passivité face à ces enjeux, qui est quand même dramatique. Je veux dire, parce qu'il faut bien voir qu'il y a des zones entières de la Terre qui vont devenir inhabitables. Donc les gens qui habitaient dans ces zones-là et vont vouloir se déplacer, bon, on imagine facilement la suite. Et puis il va y avoir des concurrences, on le voit déjà un peu aujourd'hui, des concurrences aiguës pour des biens matériels. Et ça va inévitablement déboucher sur des conflits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le changement climatique, c'est juste qu'on va crever de chaud. Hein. Ça va créer des situations terribles. Et aujourd'hui, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant.
Et vous diriez que dans ce contexte, il y a un véritable combat de la foi à mener, une sorte de combat spirituel à envisager?
Oui, il y a un combat spirituel, absolument. Parce qu'un combat spirituel, il ne faut pas penser que parce qu'on dit spirituel, ça se limite à des paroles. Hein, c'est pas bon. Alors, bien sûr, on peut prier. Ça, je prie moi aussi. Hein, c'est pas. Mais un combat spirituel, c'est aussi un combat pratique. C'est-à-dire, je pense que justement, aujourd'hui, il faut qu'on s'interroge sur notre dépendance à l'abondance matérielle. Je pense que dans beaucoup de sociétés, on peut vivre confortablement, moins bien. Enfin, j'entends dire, on n'est pas obligé de poursuivre notre quête du confort aussi loin qu'on la poursuit. On pourrait très bien vivre bien, mais en dépensant beaucoup moins d'énergie. Quand je suis né, chaque Français dépensait 6 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui. Bon, on vit pas 6 fois mieux. Hein. Même si on vivait 2 fois mieux, ça veut dire qu'en fait, on a une manière de construire la croissance qui est complètement délirante. Je veux dire, et ça, c'est aujourd'hui qu'il faut le dire. Enfin, c'est aujourd'hui, et non seulement le dire, mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il faut essayer de trouver des voies. Parce que ça, c'est la source des conflits de demain. Et une fois que ces conflits seront déclenchés, on dira « Ah oui, alors qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire ?» Ben, les chrétiens, ils pouvaient faire beaucoup avant. Et après ça, une fois que la guerre est déclenchée, je veux dire, bon, les chrétiens, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont forcément débordés. Ils sont forcément débordés par les événements.
Concrètement, aujourd'hui, si vous aviez à dire en 2 mots les valeurs que les chrétiens devraient incarner dans ce combat spirituel que vous mettez en avant, quelles seraient ces valeurs ?
Mais ces valeurs, elles sont déjà dans l'Évangile. Hein. Je veux dire, quand on y prête attention, l'Évangile, il dit énormément de choses sur la fascination des richesses, hein, sur une fascination complètement déplacée. Ce qui m'a frappé, par exemple, dans l'Évangile de Luc, il y a une section d'une dizaine de chapitres, qu'est-ce qu'on appelle la marche vers Jérusalem, où Jésus part de Galilée jusqu'au jour des rameaux. Et pendant ces 10 chapitres, vraiment, il développe ce qui, pour lui, fait le cœur de la vie chrétienne. Dans ces 10 chapitres, la question de la richesse et de l'argent, elle revient, mais de manière pratiquement obsessionnelle. Et pendant tous ces 10 chapitres, il parle des questions sexuelles une fois. Et encore par des brefs mentions. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de cette proportion. Je pense que...
Dans les prédications et dans le discours chrétien usuel.
Dans le discours chrétien, oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui fait la valeur de ce qu'on vit aujourd'hui. Et justement, moi, je pense qu'on est victime de l'ambiance générale où, en fait, ce qui fait la valeur de la vie, ben, c'est un projet de vie individualiste où on essaie d'accumuler le maximum de biens. Et...
Donc, concrètement, ce à quoi vous invitez, c'est à une vie plus simple, une vie plus dépouillée.
Oui, parce que, mais sachant bien que la simplicité et le dépouillement, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une corvée. Enfin, c'est quelque chose qui nous fait découvrir la vraie vie. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est pas une forme d'ascèse, disons, où on s'inflige des pénitences. Non, c'est bien. Je veux dire, redécouvrir des valeurs, des vraies valeurs, c'est bien, c'est fort. Moi, je trouve que c'est libérateur, quoi.
Frédéric de Coninck, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler de l'espérance, un thème que vous abordez dans votre livre « Être sel de la terre dans un monde en mutation, appel aux chrétiens du XXIe siècle ». C'est un livre qui est paru aux éditions Excelsis. Si on souhaite vous suivre au travers de vos éditoriaux, on peut aussi vous retrouver sur le site regardprotestant.com et puis directement, en fait, également sur votre blog « Tendance Espérance ». Bonne suite de journée, Frédéric.
Merci, au revoir.
Excellente suite de journée aussi à chacune et à chacun. À bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.